Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce mardi soir 8 juin 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Il est temps que les États-Unis changent de cap, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. La marche des colons à Al-Quds a été annulée suite à la mise en garde de la résistance palestinienne. Et au moins de 160 morts dans l'attaque dans le Sahel au Burkina Faso, selon un nouveau bilan. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, réitérant sur le fait que Téhéran reste toujours attaché au plan global d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 a annoncé que le moment était venu pour que les États-Unis changent de politique. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a écrit sur sa page Twitter de ce lundi 7 juin, on ne sait toujours pas si le président américain Joe Biden et le secrétaire d'État américain Antony Blinken sont prêts à enterrer la politique de pression maximale menée par Donald Trump et Mike Pompeo. Le ministre iranien des Affaires étrangères a également remis en cause la politique américaine de terrorisme économique, ajoutant qu'il n'était toujours pas clair si Biden et Blinken étaient prêts à abandonner le terrorisme économique en tant qu'un levier dans les négociations. Il a poursuivi en soulignant une fois de plus l'engagement de l'Iran à l'accord nucléaire et la nécessité pour les États-Unis de changer d'approche. L'Iran est engagé et respecte le plan global d'action conjoint. Lisez simplement l'article 36 de cet accord. Il est temps de changer de cap, a martelé le chef de la diplomatie iranienne. L'Iran a condamné de l'attentat terroriste contre des civils dans une ville du nord du Burkina Faso, le plus meurtrier depuis 2015, se déclarant prêt à coopérer avec les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a exprimé son profond regret pour la mort de moins 160 ressortissants burkinabés la frontière du pays avec le Mali et le Niger. L'Iran est prêt à partager son expérience dans la lutte contre le terrorisme avec les pays africains, dont le Burkina Faso, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Une marche controversée de colons sionistes d'extrême droite prévue à Qouds Est occupée a été annulée de son parcours n'ayant pas été autorisé par la police d'occupation, ont indiqué les organisateurs. Le parcours de la démarche, de la marche qui devait se dérouler en partie dans les quartiers palestiniens de la ville sainte et sur l'esplanade des mosquée n'a pas été autorisé par la police, ce qui a provoqué son annulation, a affirmé le porte-parole d'un des mouvements organisateurs de cette manifestation de provocation. Peu auparavant, un dirigeant du mouvement de la résistance islamique de Palestine, Hamas, avait menacé Israël d'une nouvelle escalade de violence. Nous mettons en garde l'occupation contre la possibilité que la marche des colons d'approcher d'Al-Quds Est et de l'esplanade des mosquées a déclaré dans un discours Khalil Al-Yahya, un ténor du mouvement de la résistance islamique de Hamas à Gaza. Nous espérons que la journée de jeudi ne devienne pas un nouveau dîme, a-t-il ajouté en référence au début de cette escalade entre le Hamas et Israël qui a mené à une guerre de 11 jours, guerre durant laquelle le peuple palestinien, la résistance palestinienne dans toutes ses composantes a remporté une victoire historique contre l'armée israélienne. La délégation omanaise qui s'est rendue à Sanaa, capitale du Yémen, a été porteuse d'une lettre de la part de Mohamed Ben Salman à l'adresse de Abdelmalek Al-Houssi, leader du mouvement populaire yéménite Ansar Allah. Le site web Al-Akhbar al-Yémeni se réfère à des sources omanaises pour dire que la lettre de MBS contenait des concessions que les Saoudiens seraient prêts à faire à la partie yéménite. Ainsi, l'Arabie Saoudite s'est dite prête à rouvrir l'aéroport international de Sanaa et le port de Hudaydah et d'envoyer une aide urgente aux Yéménites en contrepartie de l'arrêt par l'armée yéménite d'Ansar Allah de leurs frappes aux missiles et drones sur Marib ainsi que de leurs attaques contre les profondeurs du territoire des Saoudiens. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Au moins 160 morts dans l'attaque dans le Sahel, selon un nouveau bilan. Au moins 160 personnes ont été tuées dans une attaque dans le village de Solhan, dans le Sahel burkinabé, selon des sources concordantes. Le nombre de victimes de l'attaque de Solhan est maintenant de 160 morts, a indiqué la radio privée Omega FM. Ce nouveau bilan a été confirmé par une source administrative basée à Dori, dans le Sahel, sous couvert d'anonymat. C'était le samedi soir, le porte-parole du gouvernement avait déclaré que l'attaque avait fait au moins 132 morts et une quarantaine de blessés, dont des blessés graves. Il a par ailleurs ajouté que le bilan de l'attaque pourrait s'alourdir au regard du nombre de blessés et précisé qu'au moins 700 personnes avaient fui leur localité suite à cette attaque. Un deuil national de 3 jours avait été décrété par le président burkinabé Roch Marc de Christian Kabore. Cette attaque est considérée comme la plus meurtrière depuis 2015 dans le pays, une attaque qui n'a pas encore été revendiquée. Des actions de protestation ont explosé à Minneapolis suite à la mort d'un Afro-Américain abattu par les forces de police. Les manifestants revendiquent la transparence des détails de l'incident mortel de récent vague. Des protestations agitent les rues de la ville américaine de Minneapolis depuis la fin de la semaine dernière. La raison est le décès d'un Afro-Américain, relate la chaîne CBS Minnesota. Âgé de 32 ans, cet habitant de Minneapolis a été tué le 3 juin par des US Marshals qui voulaient l'arrêter sur la base d'accusations de possession illégal d'armes. Les marshals qui ont effectué cette opération n'étaient pas, à la différence de certaines autres unités policières des États-Unis, munis de piétons, d'où l'absence de confirmation vidéo de leur vision et la revendication des manifestants, d'obtenir plus d'informations objectives sur ce qui s'est passé sur un parking de Minneapolis. C'est la fin de notre jour dans l'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. On va vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Ben Salman frappe à la porte d'Ansar Allah, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. La délégation omanaise arrivée de samedi à Sanaa a été porteuse d'une lettre de la part de Mohammed Ben Salman, prince héritier saoudien, à l'adresse de Abdel Malek al-Houssi, leader du mouvement populaire yéménite Ansar Allah. Le site web Al-Akhbar al-Yémeni se réfère ce lundi à des sources omanaises pour dire que la lettre de MBS contenait des concessions que les Saoudiens seraient prêts à faire à la partie yéménite. Ainsi, l'Arabie saoudite s'est dite prête à rouvrir l'aéroport international de Sanaa et le port de Hudaïda et d'envoyer une aide urgente aux Yéménites en contrepartie de l'arrêt par l'armée yéménite et Ansar Allah de leurs frappes aux missiles et drones sur Marib ainsi que de leurs attaques contre les profondeurs du territoire saoudien. Le leader d'Ansar Allah a plus d'une raison de ne pas prendre au sérieux les doléances de MBS. Alors que le frappe aérien continue à tuer au Yémen, l'Arabie saoudite vient de lancer l'exercice aérien conjoint Tawfiq 2 avec des pays arabes dont les Émirats arabes unis, l'Égypte, la Jordanie et le Sultanat d'Oman. Le Koweït et Bahreïn y participent également à titre d'observateurs. L'exercice aérien conjoint multinational lancé à la base aérienne de Prince et Sultan durera 2 semaines et vise à assurer les plus hauts niveaux de préparation et atteindre la de comptabilité et l'intégration opérationnelle d'entraînement et ce pour les largages tactiques et élever l'esprit de compétition parmi les participants. Plus d'un analyste estime que la lettre de MBS vise surtout à stopper le processus irréversible de la libération de Marib ou encore cette incessante frappe en profondeur d'Arabie qui ont fait d'elle le centre mou de l'Empire. Les troupes de l'armée et les combattants d'Ansar Allah du Yémen ont mené cet dimanche une quatrième de nouvelles frappes par drone contre une importante base aérienne de la province province d'Asir, dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite. Ils ont touché des cibles sensibles à l'intérieur de la base aérienne du roi Khaled, près de la ville saoudienne de Khamis Mouchat. Aux premières heures du dimanche 6 juin, a tweeté le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sari. La chaîne de télévision yéménite Al-Masira a cité Sari disant que l'attaque avait été lancée par un drone de combat Qassem K2.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce vendredi 4 juin 2021. Ce vendredi 4 juin marque le 32e anniversaire du décès de l'imam Khomeini, fondateur de la République islamique d'Iran. À cette occasion, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a prononcé ce vendredi un discours. Dans son discours, l'Ayatollah Khamenei a rendu un hommage appuyé au défunt fondateur de la République islamique d'Iran et a en effet sa pensée la plus originale et la plus novatrice, à savoir la République islamique et la démocratie religieuse. Le leader de la révolution islamique a souligné qu'en dépit de toutes les difficultés, la République islamique d'Iran peut aujourd'hui se féliciter d'avoir surmonté toutes les épreuves difficiles, y compris la guerre imposée par le régime de Saddam avec le soutien de ses alliés occidentaux, mais aussi ces derniers temps, bien entendu, les sanctions et les pressions américaines. L'honorable Ayatollah Khamenei a par ailleurs souligné l'importance des élections en Iran, y compris la prochaine présidentielle, et exhorté les gens à participer massivement au scrutin présidentiel. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur ce discours important du leader de la révolution islamique à l'occasion du 32e anniversaire du décès de la fondateur, du faux fondateur de la République islamique, et bien entendu la lutte et l'idéologie de l'imam Khomeini, qui a réussi en effet à défier au cours des 40 dernières années les puissances impérialistes et dominatrices du monde entier à leur tête, les États-Unis. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Merci de nous regarder, de regarder l'émission du débat. Pour cette émission, nous sommes en ligne avec Maître André Chamy, juriste international et sociologue depuis Alsace, et Monsieur le professeur Pierre Tortillier, philosophe et politologue français depuis Toulouse. Maître Chamy, bonjour et merci infiniment d'être en ligne avec nous.
Bonjour, merci pour votre et bonjour au professeur
Maître Chamy, alors je serai bref pour première question, justement à cette occasion, l'occasion du 32e anniversaire du décès du faux fondateur de la République islamique d'Iran, l'imam Khomeini, en référence bien sûr au discours du leader de la révolution islamique, la pensée originale et novatrice de l'imam Khomeini. Quel regard rétrospectif portez-vous sur cette pensée et son impact, ses répercussions au cours des 40 dernières années?
J'ai envie de dire que ce n'est pas un regard rétrospectif parce que c'est une idée, c'est une vision du monde et de la société iranienne en particulier qui se poursuit et qui se perpétue, ce qui démontre d'abord la justesse de la vision et surtout la persévérance dont font l'objet des Iraniens à travers l'application de cette grande vision qui est constitué par les velléités de Forquier, mais en même temps, il y a quelque chose au-delà, c'est ce que j'appellerais, moi, l'évolution dans les fondamentaux, c'est-à-dire on évolue, on suit la modernité dans la vie, dans la société, dans le monde, tout en gardant l'œil fixé, rivé sur les fondamentaux de l'humain d'abord et en même temps de la société. Parce qu'une société qui part à la dérive sans se fixer des principes fondamentaux qui lui permettent de s'incruster et de s'enraciner afin qu'il n'y ait pas de dérapage. Parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, sans vouloir être passéiste, nous constatons quand même qu'il y a une sorte de laisser aller qui va aboutir à la perte de beaucoup de sociétés parce que ces sociétés ont perdu indiscutablement l'essentiel, c'est-à-dire les racines qui leur permettent de rester fixées au sol mais en même temps se projeter comme un arbre dans le ciel ou dans l'avenir. Et chaque arbre que constitue une société nécessite, avant d'imaginer des branches et des fruits, a besoin de ses racines. Et je pense que l'idée de l'énorme Khomeini est d'abord cette image d'arbre, à mon sens, qui démontre l'enracinement et en même temps la projection et dans l'espace et dans le monde. Et c'est cette image-là que m'inspire d'abord l'idée de l'énorme Khomeini. Mais derrière cette idée-là, il y a, à mon sens, cette espèce de philosophie qui est constituée par des valeurs importantes, ces valeurs de morale, ces valeurs de justice, ces valeurs de solidarité. Et toutes ces valeurs-là sont essentielles pour un pays, sont essentielles pour notre monde. Parce qu'on peut partir dans tous les sens à travers les valeurs matérielles, à travers le dérapage que notre civilisation aujourd'hui nous permet, comme nouvelle technologie, comme nouvelle communication. Mais si on n'a pas cette possibilité d'être proche les uns des autres, d'être solidaires les uns des autres, d'être compréhensifs des uns des autres, évidemment, on finit par s'éloigner de ce qui est important et aboutir malheureusement à des crises comme celles que nous sommes en train de vivre. La crise du Covid en est l'exemple, mais ce n'est un exemple qui est le plus proche parce qu'on le vit actuellement. Mais quand on regarde ce qui se passe avec l'écologie, quand on regarde avec ce qui se passe avec le dérapage de l'économie, la folie furieuse des économies, c'est-à-dire l'enrichissement à outrance et en même temps la précarité et la misère à outrance, si on ne trouve pas de frein, évidemment, on va vers la perte de ce qui est humain et la perte du monde, tout simplement, parce que, évidemment, la folie humaine peut aller très loin et si elle n'est pas freinée par quelque chose que constitue les valeurs de cette humanité-là, on finira par perdre ce qui est humain en nous et perdre tout simplement le monde dans lequel nous vivons.
Merci infiniment pour ces éclairages, Maître Chamy. Restez avec nous. On va tout de suite à rejoindre à Toulouse, Monsieur le professeur Pierre Dortguillet, philosophe et politologue français. Monsieur le professeur, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, Monsieur Rodapanté. Bonjour à tous vos auditeurs, à Maître Chamy, dont j'ai apprécié vraiment beaucoup avec émotion, même l'exposé sur l'imam Khomeini.
Merci, Monsieur le professeur. Maître Chamy l'a rappelé, l'idéologie et l'école de l'imam Khomeini, c'est une évolution importante qui se perpétue dans l'espace et dans le temps, bien sûr en se basant sur les valeurs morales, valeurs humaines. Et par nature, la révolution de l'imam Khomeini est une révolution anti-dictature, anti-impérialiste. Au cours des 40 dernières années, dans quelle mesure, Monsieur le professeur, cette révolution anti-dictature, anti-impérialiste, a réussi à, en effet, à influencer profondément et considérablement les nations du monde à l'échelle internationale et à défier surtout, en effet, les puissances impérialistes.
C'est une identité depuis la mort de l'imam Khomeini et donc le, disons la connaissance que le monde a eue de la révolution iranienne depuis l'installation de l'État iranien avec cette double commande, si je puis dire, à la fois religieuse et politique, proprement dite, qui est le caractère le plus notable, disons, qui a impressionné le monde. C'est, je dirais, l'identité à travers le temps, non pas l'identité comme une reconnaissance, mais l'identité, c'est-à-dire le fait que l'Iran est demeuré le même, ainsi, à travers des événements considérables, non seulement la guerre que vous avez évoquée, imposée à l'Iran par l'Irak, mais également, disons, par tout ce qui a été la guerre économique, l'emprise économique, etc. Et puis ensuite, cette guerre horrible qui est faite donc, à l'Orient arabe par les puissances impérialistes, qui naturellement montre que ce qu'a fait Khomeini, ça a été de préserver la personnalité de l'Iran. Non pas l'existence de l'Iran. L'Iran, à part lui-même, aura toujours une assise comme la Turquie, comme les grands pays. Mais c'est cette personnalité qui demeurait, disons, intacte. Et alors, les gens qui se posent la question, comme Maître Chani, par exemple, nos contemporains, qui voient un désordre permanent, une baisse, comme moi-même je le vois, du niveau intellectuel, du niveau culturel, je dirais des lycées jusqu'aux universités ici, que quand je vois la désorganisation, je n'ai pas d'autre mot, des familles, etc., que je compare, par exemple, à ce que je vois en Iran, que je retrouve mes mêmes familles, même, disons, les mêmes, comment dirais-je, les mêmes contacts humains que nous avions, nous, dans les années 60 encore. Et je le dis vraiment en connaissance de cause. Nous-mêmes, notre génération déplore l'effondrement successif, je dirais aussi continu, comme s'il y avait une main invisible, voyez-vous, qui voulait véritablement humilier l'humanité. Et alors, dans cette sorte de désastre que nous connaissons, et qui est renforcé, bien sûr, par, comme l'a dit Maître Chami, par ses expériences sanitaires, etc., nous voyons aussi le désastre des anciennes idéologies. C'est-à-dire que celles-ci ne peuvent pas se maintenir. Pour quelles raisons? Parce qu'elles n'ont pas de base spirituelle. Elles sont une forme de matérialisme. Que ce soit le matérialisme de l'Est, comme on disait autrefois, ou le matérialisme de l'Ouest, qui est représenté, bien sûr, par les États-Unis d'Amérique, mais qui a également, disons, si je puis dire, des enfants terribles face à lui, qui d'ailleurs ne peuvent pas, justement pour cette raison, faire autre chose que qu'adopter, justement, les mauvaises méthodes américaines, et ceci, disons, dans la perspective d'un gouvernement mondial, voyez-vous, comme on dit aujourd'hui, d'une organisation dans laquelle la technique se fait avec des robots, bien sûr, mais des robots qui sont au sein d'une population humaine qui est sans âme. Je crois que c'est, il faut dire en un mot, vous l'avez dit, M. Rodavandé, c'est cette démocratie religieuse qu'a institué l'imam Khomeini. Et je dois dire, si je regarde le monde tel qu'il est, que je ne vois que dans ce pays, que dans votre pays, dans votre patrie, disons, le maintien de ce principe. Je suis tout à fait en accord avec Maître Chami sur ce qu'il dit, et je dois dire même pour nos auditeurs que, vous savez qui est Maître Chami d'Alsace, c'est en Alsace même que, quelques temps après la prise du pouvoir par l'imam Khomeini, un Alsacien connu, Maître des Eaux et Forêts, qui était anthroposophe, m'a expliqué, disons, quoi il fallait que nous soutenions l'imam Khomeini dans sa lutte contre le matérialisme mondial. Vous savez, à l'époque de l'imam Khomeini, on disait, par exemple, il y avait la révolution chinoise qui avait eu lieu sa seconde révolution, la révolution culturelle, dans ce pays que j'ai connu. On parlait, le vent d'Est emporte sur le vent d'Ouest. Oui, mais en réalité, disons, il y avait le même parfum à l'Est comme à l'Ouest. Ce qu'il fallait, c'était, comme dit Khomeini, l'imam Khomeini, ni l'Est, ni l'Ouest. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est rester nous-mêmes. Et donc, en fait, qu'a fait l'Iran? C'est de rester lui-même, voyez-vous, devant des pays qui adoptaient des formes plus ou moins réalistes et qui finalement se sont montrés inefficaces quant à leur survie. Je Merci. Fais un dernier point, c'est que l'imam Khomeini a été très influencé, à mon avis, quand je lis sa correspondance, par son séjour en Turquie, par exemple. Il avait vu que le peuple turc était resté très fidèle, qu'on le voyait très nombreux dans les pèlerinages et autres, et il avait vu la persécution contre le clergé turc. Et il parlait des gens qui avaient été massacrés, etc. Et donc, il disait justement, je comprends qu'il n'a pas voulu que l'Iran suive cette voie, voyez-vous. cette voie dans laquelle, comme appelle-nous la voie du laïcisme, qui est l'indifférence, c'est l'indifférence aux valeurs profondes, aux valeurs religieuses. Vous savez que dans notre pays, dans l'enseignement primaire, par exemple, si un enfant dit qu'il est croyant, enfin, ou fidèle à quelque chose, on prend cela en grande partie, je ne dis pas chez tous mes collègues, mais en très grande partie, pour un phénomène pathologique, voyez-vous. C'est très, très grave.
Alors, merci, monsieur le professeur.
L'Iran ne peut pas parler pour tout le monde, mais l'Iran peut rester un exemple. Et je crois que c'est la valeur de l'imam Khomeini d'avoir justement fait appel à cette ressource de l'Iran qui sert de phare, si je puis dire, qui ne peut pas se substituer aux autres pays, mais qui sert de phare et de référence. Voyez-vous. Donc,
merci.
Je dirais comme l'imam Khomeini, ni Est ni Ouest, mais restons nous-mêmes.
Merci pour ces précisions, monsieur le professeur d'Ortiguière. Maître Chami, alors, on ne peut pas parler de l'imam Khomeini et ne pas parler de son positionnement envers les États-Unis et le régime sioniste. Concernant les États-Unis, alors l'imam Khomeini a souligné toujours que les États-Unis, justement, seraient incapables du moindre agissement hostile contre la nation iranienne et qu'Israël est condamné justement à disparaître. Dans quelle mesure aujourd'hui, justement, cette pensée et cette prise de position de l'imam Khomeini s'est concrétisée et trouve toute son importance, Maître Chami?
Alors, je dois vous avouer que je suis en train de travailler sur un document actuellement et dans ce document, j'indique que je pense que les Américains et les Israéliens, enfin ce qu'on appelle l'entité sioniste, se sont trompés sur un élément fondamental que constitue aujourd'hui un changement radical dans le monde, c'est je dirais, la conséquence de la révolution iranienne. Ils ont cru que c'était une petite révolution et que ça allait se tasser très rapidement et que, en quelque sorte, l'histoire emportera les idées de la révolution. Et cette radicalité, entre guillemets, dans le changement du paradigme logiciel, si je veux dire, de regard sur le monde. Et cette erreur grave, aujourd'hui, trouve ses conséquences sur la scène internationale, sur la scène économique, sur la scène politique, sur la scène militaire et même sur la scène existentielle, si je veux dire, de l'entité sioniste. Aujourd'hui, regardez voir ce qui se passe. Les États-Unis ont fini par comprendre, malgré la succession de combien de présidents depuis la naissance de la Révolution. Il y a eu, un certain nombre, 5 ou 6 présidents qui sont passés. Ça n'a strictement rien donné, puisque la révolution iranienne a perduré et a, au contraire, aujourd'hui, se trouve particulièrement remportée de l'intérieur et de l'extérieur, puisque ses alliances à l'extérieur sont devenues beaucoup plus nombreuses, son positionnement stratégique est devenu combien plus important qu'auparavant, et bien entendu, sur le plan économique, si l'on regarde rien que dans ce qu'on appelle les paramètres classiques d'une nation, c'est-à-dire son PIB, ses capacités industrielles, ses capacités de production et ses capacités en matière d'exportation et d'évolution de son économie, évidemment, c'est déjà la révolution. Sur le plan politique, j'en parle même pas, puisque la nation iranienne a pu dénoncer sa capacité d'adaptation et son évolution, et même l'adaptation même du régime politique, c'est-à-dire on vient aujourd'hui, à la veille des élections en Iran, constater que la démocratie iranienne fonctionne plus que jamais et l'appel au vote et à la participation à ces élections plus que jamais et plus que jamais appelé par l'ensemble de la population iranienne et plus particulièrement par ses dirigeants, c'est-à-dire il n'y a pas de ralentissement sur le terrain de la démocratie. Si vous prenez sur le terrain international, évidemment le regard de l'imam Khomeini dont la vision a été poursuivie par l'imam Khomeini donne ses effets aujourd'hui, puisque les menaces à l'encontre de l'entité sioniste sont aujourd'hui plus que jamais pesantes et interrogent l'ensemble de la classe politique au sein de cette entité sur son avenir. Et ce qui s'est passé après l'opération le sabre de d'Al-Qaïda,
démontre effectivement que ce régime est devenu de plus en plus fragile, à tel point qu'il est obligé de demander un cessez-le-feu au bout de 10 jours, alors que jusqu'à maintenant, on disait que les guerres éclairs étaient toujours en faveur de cette entité. Aujourd'hui, même les guerres éclairs de 10 jours anéantissent tout simplement ses capacités de résistance et ses capacités de défense, ce qui est déjà un exploit extraordinaire. Nous avons donc la démonstration et de la vision de la Nostra-UNI et en même temps de la justesse de ce regard sur l'avenir du monde en général, mais également de la région. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Iran est fort et aujourd'hui, les alliances avec l'Iran sont pertinentes concernant ce qui se passe, comme j'ai eu l'occasion de le dire, à travers les pays qui entourent la République islamique d'Iran, qui vont tous dans le sens contraire de l'histoire. Et aujourd'hui, la véritable force, non seulement démocratique, mais que j'appellerais progressiste dans la région, c'est bien entendu l'Iran, en entraînant avec lui l'ensemble de l'axe de la résistance, c'est-à-dire, vous regardez ce qui se passe au Yémen, les grandes victoires du Yémen, vous regardez ce qui se passe en Palestine, les grandes victoires du peuple palestinien, vous regardez voir ce qui se passe en Syrie, les grandes victoires et du peuple syrien et, bien entendu, de cette résistance syrienne face au projet terroriste qui la visait. Vous regardez ce qui se passe en Irak, évidemment, je ne peux que confirmer la même analyse par rapport à ce que je viens de dire sur la Syrie. Aujourd'hui, le Liban, avec la force de Hezbollah, et pas seulement la force de Hezbollah, c'est ce que Hezbollah porte en son sein comme philosophie, qui porte l'idéologie, si j'ose dire, mais l'idéologie dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ces valeurs intellectuelles, cette valeur morale et cette valeur spirituelle que constitue le Wilayat et Al-Faqih, évidemment, aujourd'hui, le Hezbollah constitue le premier rempart face à l'entité sioniste et la première menace existentielle pour le peuple, pour l'entité sioniste. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, le regard de Nostra-UNI est présent et bien entendu, a sa valeur pour l'actualité et pour l'avenir.
Merci infiniment. Une toute dernière question à M. le professeur Dortiguier. Monsieur le professeur, donc aujourd'hui, plus que jamais, la vision anti-impérialiste et anti-sioniste de l'imam Khomeini trouve en effet son écho, non seulement dans la région, non seulement auprès des nations musulmanes, mais aussi à travers le monde entier.
Oui, en effet. C'est là justement l'importance et peut-être ce qui ne peut pas être arrêté par les puissances ennemies ou les puissances hostiles, disons, à l'Iran et au peuple en général du monde. L'Iran est remarqué et devient un facteur de résistance et d'éveil des esprits par son maintien. C'est-à-dire c'est le maintien de ses capacités, le développement de sa société, sa fidélité, c'est le plus important, à des valeurs religieuses. Ailleurs, il y a des pays qui affichent des valeurs, mais qui ne les respectent pas, qui ne les pratiquent pas. Et cela, à mon avis, il n'y aurait pas eu, je reprends ce que dit Maître Chami, il n'y aurait pas eu, par exemple, un Hezbollah, je pense aussi cette organisation, comme résistant, bien sûr, à la force sioniste, s'il n'y avait pas eu, bien sûr, derrière le modèle de l'identité iranienne. Et je crois que c'est quelque chose qu'aucun des adversaires de l'Iran qui prétendent construire un ordre nouveau, un ordre, comment on dit, universel, etc. Non, ils prétendent construire un ordre, mais comme dit, je citerai le Saint-Coran, cet ordre-là n'est en fait qu'un désordre, que eux-mêmes ne sauront pas arrêter. Et je crois que dans ce désordre qui se dessine général dans le monde, voyez-vous, je crois que l'Iran renforce sa force uniquement par son identité religieuse et technique, bien sûr, mais surtout identité religieuse qui n'est plus considérée comme contraire à ce qu'on appelait autrefois le progrès. C'est cela la singularité de votre pays qui a une valeur, qui a une importance mondiale évidemment considérable, d'où la haine qui est évidemment dans la presse et autres, mais ceci ne dupe pas quand même les bons esprits.
Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français depuis Toulouse, Maître André Chami, juriste international et sociologue depuis Alsace, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khomeini, dans un discours télévisé en direct à l'occasion du 32e anniversaire du décès de l'imam Khomeini, que sa demeure soit au paradis, a souligné « Le glorieux de secret de la pérennité de la République islamique d'Iran réside dans ces deux mémons, république, le peuple, et islamique, la religion. » Le grand travail de l'imam Khomeini était de créer et de concrétiser l'idée et la théorie de la République islamique. La réalisation de cette théorie a été fondée et soutenue par sa profonde connaissance de l'islam et du peuple, a souligné le guide suprême de la révolution islamique avant de préciser. Parmi les systèmes politiques du monde, il n'y a aucun système dont la chute ait été autant préditée que de celui de la République islamique. Depuis le premier jour, les malveillants disaient qu'il s'effondrait dans 2 mois environ. Mais la République islamique d'Iran s'est renforcée de jour en jour, a souligné le guide suprême de la révolution islamique. Et l'honorable Ayatollah Khamenei de préciser de nombreuses révolutions du monde, dont la révolution française, ont eu un début passionnant, mais une fin empoisonnée. La révolution française, peu de temps après son avènement, fut marquée par un empire despotique, alors que la République islamique devint de jour en jour forte. Le secret de la pérennité de la République islamique d'Iran réside dans ces deux monts, république et islamique. Le grand acte de l'imam Khomeini a été de créer et de concrétiser l'idée et la théorie de la République islamique. La base de la réalisation de cette théorie était sa profonde connaissance de l'islam et du peuple, a précisé l'honorable Ayatollah Khomeini avant de poursuivre. Chacun doit sentir qu'il est de son devoir non seulement de participer aux élections, mais aussi d'enjoindre les autres à y prendre part. C'est pratiquement s'enjoindre mutuellement la vérité selon le noble Coran. Chaque candidat doit se déclarer engagé à établir la justice sociale, réduire l'écart riche-pauvre, stimuler la production nationale, lutter contre la corruption, la contrebande et l'importation inutile, de sorte que les organes de surveillance puissent l'interroger à ce propos, a souligné l'honorable Ayatollah Khomeini. Au cours du processus de vérification, certains candidats ont été opprimés et accusés par de fausses allégations qui se sont malheureusement propagées sur les réseaux sociaux. Protéger l'honneur des gens est très important. J'appelle les organes responsables à les réhabiliter, a fait remarquer l'honorable Ayatollah Khomeini. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a réagi aux récents développements politiques dans les territoires palestiniens occupés qui ont pratiquement mis fin au mandat de 12 ans du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, notant qu'il a rejoint d'autres troupes de figures bellicistes anti-iraniennes dans la poubelle de l'histoire. Zarif a fait ses remarques dans un tweet jeudi comparant le sort de Netanyahou à celui d'autres personnalités anti-iraniennes aux États-Unis qui étaient des alliés proches du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans cette complot contre Téhéran, y compris l'ancien président américain Donald Trump, son ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton et son secrétaire d'État Mike Pompeo. Netanyahou a rejoint le voyage honteux de ces co-conspirateurs anti-iraniens Bolton, Trump et Pompeo dans la poubelle de l'histoire, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères. Zarif a affirmé que l'Iran continue de se tenir debout, soulignant que le même sort s'est répété pour les méchants iraniens pendant plusieurs millénaires, ajoutant « Il est temps de changer de cap ». La Syrie a condamné l'entrée illégale dans son territoire de deux délégations néerlandaises et françaises. La Syrie a affirmé que l'entrée illégale d'une délégation néerlandaise et française dans ce territoire, en coordination avec la milice FTS, et la poursuite de la politique de turquisation dans les zones contrôlées par les réseaux terroristes constitue une violation flagrante du droit international et de la souveraineté syrienne sur tout le territoire. Dans une déclaration auprès à l'agence Sana, une source officielle du ministère syrien des Affaires étrangères a souligné que des représentants de certains pays impliqués dans la guerre contre la Syrie avaient mené des pratiques violentes de manière flagrante le droit international et la souveraineté de la République arabe syrienne. La source a indiqué qu'une délégation néerlandaise conduite par le soi-disant envoyé de la Syrie est entrée illégalement dans le territoire syrien en coordination avec la milice des FDS sous prétexte de ramener des éléments de Daesh détenus par cette milice. La source a ajouté qu'une autre délégation française de la Fondation Daniel Mitterrand et de la mairie de Paris s'était rendue illégalement dans la ville de Qamishli, qui est une autre implication directe de la France dans l'agression contre la Syrie. Dans le cadre de l'occupation turque injuste des territoires syriens, les autorités turques ont ordonné leurs forces travaillant avec les groupes terroristes à Idlib à établir un secrétariat général d'état civil dans le gouvernorat et des municipalités dans les villes, les localités, les villages contrôlés par les groupes terroristes, a fait savoir la source. La source a également réclamé le retrait de cartes d'identité individuelle et familiale délivrées par les services compétents de la Syrie pour les remplacer par des cartes d'identité kurdes, ce qui représente le summum de la politique de turquisation menée par le régime turc qui sera rejetée catégoriquement par les citoyens syriens libres, comme l'avait fait la population syrienne au Golan occupé qui avait refusé la carte d'identité israélienne, a indiqué le ministère des Syriens des Affaires étrangères. Le leader du mouvement de la résistance yéménite d'Ansar Allah, Sayed Abdelmalek Al-Houssi, a affirmé que le peuple yéménite est attaché à son droit à la liberté, à l'indépendance, à la dignité, ainsi qu'au droit de toute la nation de se débarrasser des complots américains et israéliens. Al-Houssi a indiqué lors d'un discours télévisé que lorsque le peuple yéménite scande « À mort l'Américain, à mort Israël », cela implique qu'il lutte pratiquement pour affronter les conspirations des États-Unis et d'Israël. Et d'ajouter ce slogan est devenu aujourd'hui le chant des ombres libres sur les chars Abrams lors des tirs des missiles balistiques et lors de rassemblements de masse. Il a expliqué que les activités américaines non israéliennes dans notre région visent à dominer l'identité culturelle de notre nation islamique, soulignant que le slogan de la lutte contre le terrorisme constitue un alibi pour une intervention dans tous les domaines culturels, intellectuels, médiatiques, politiques et autres. Les régimes saoudiens et émiratis œuvrent dans ce sens et s'efforcent d'inciter la nation à la loyauté envers les États-Unis et Israël et à l'animosité envers l'axe de la résistance. S'agissant de l'agression saoudo-US contre le Yémen, le chef Nasser Allah a fait savoir que les forces d'agression n'ont fait aucune concession. Tout ce que nous réclamons, c'est l'arrêt de l'agression et la levée du siège contre le Yémen, et de souligner que la paix ne sera rétablie qu'après la fin de l'agression, la levée du blocus et le retrait de l'occupation. Le fait d'appeler notre peuple à mettre fin à sa résistance face à l'agression implique l'acceptation de la reddition, ce qui est loin d'avoir lieu, a-t-il conclu. C'est la fin de notre émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.